Alors, l'indicateur le plus attendu et le plus utilisé médiatiquement, c'est le taux de croissance du produit intérieur brut, du PIB. Et le deuxième très attendu, malheureusement, compte tenu de la conjoncture, c'est le taux de chômage, qui est lui aussi trimestriel. Un petit peu moins grand public, mais très important pour les économistes et pour nous, c'est la croissance de l'emploi, qui peut se décliner ensuite selon les catégories d'emploi. Et également les données du commerce extérieur, importation, exportation et solde commercial. Pour prendre un exemple aujourd'hui, au troisième trimestre 2015, la croissance est assez largement portée par les exportations. Et puis ensuite, encore plus technique et peut-être plus important que tout, c'est des indicateurs plus spécialisés, par exemple sur la production industrielle, ou sur la croissance de l'intérim, ou sur des données agricoles, qui permettent ensuite de regarder plus en détail comment fonctionne l'économie française. Alors, de façon extraordinairement résumée, le taux de croissance du PIB, c'est surtout basé sur le taux de croissance de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre la production et puis les valeurs intermédiaires qu'on a utilisées pour cette production. Donc, c'est la création de richesses supplémentaires d'une économie pendant une période donnée, un trimestre ou une année. Ce taux-là, ce calcul-là dépend de la comptabilité nationale. Il est très encadré par des normes internationales, et notamment celles d'Eurostat en Europe, mais également plus largement, ce qui permet de comparer la croissance du PIB en France, en Allemagne, en Angleterre, avec des données qui sont parfaitement comparables. Là, je suis vraiment à un niveau d'extrême généralité. Le détail du calcul est quand même vraiment complexe. Dernier point à souligner, il y a une croissance du PIB en valeur, donc en francs courants. Mais pour être parfaitement logique avec l'idée de production matérielle, il faut le déflater du taux d'inflation. Et donc, on a une croissance du PIB en valeur et une croissance du PIB en volume qui est la valeur déflatée du taux d'inflation. Alors, en fait, la marque de la croissance après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ouverture, c'est la grande ouverture aux marchés internationaux, notamment en France. On est passé d'un taux d'ouverture qui était inférieur à 10% à des taux supérieurs à 30% ou plus dans les grandes économies internationales. Et puis la deuxième grande rupture qui a eu lieu, elle est beaucoup plus récente, c'est l'arrivée sur les marchés internationaux massifs des pays asiatiques et notamment de la Chine, qui a pris une part très importante de ces marchés, ce qui fait que tous les autres parts ont diminué, en particulier celle de la France. Donc la France est une économie extrêmement ouverte dans tous les secteurs, agricole, industriel et dans l'industrie. Ce qui inquiète un certain nombre de décideurs, c'est que l'industrie a perdu beaucoup de parts de marché. Je l'ai dit au profit de la Chine, et ça c'est normal, parce que si un augmente, l'autre diminue par définition, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est également vrai par rapport à des concurrents européens qui pourtant, par exemple, disposent de la même monnaie que nous pour ce qui est de l'Allemagne. Donc, c'est pas vrai dans tous les secteurs, hein. Dans l'aéronautique, on reste très très bien placé, mais il y a des secteurs où on a beaucoup perdu et des secteurs où ça s'est même effondré, comme le textile par exemple, où la concurrence asiatique a vraiment balayé le marché et l'industrie textile, avec des conséquences extrêmement graves dans un certain nombre de régions françaises. Alors, d'abord, la dette, ça n'existe pas. Il y a des dettes. Il y a une dette publique, il y a une dette privée, et puis en fait, il y a plusieurs dettes publiques et il y a plusieurs dettes privées, hein. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de débats sur l'importance de la dette et sur la gravité, en particulier, d'une dette importante qui peut se monter à 90% du PIB, par exemple. Ou plus, on est beaucoup plus même en Grèce ou dans d'autres pays du sud de l'Europe. En ce qui concerne la dette publique, là on n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans la comptabilité publique, et l'INSEE a à charge aussi de calculer les grands agrégats de comptabilité publique, et notamment la dette publique, ceci dans le cadre de règlements européens qui visent à se conforter à un certain nombre de critères, de ratios, de dettes par rapport au PIB ou autres. Et donc le calcul de la dette a été confié à des instituts statistiques comme l'INSEE parce que ces instituts sont indépendants. Sur le plan déontologique, le gouvernement ne peut pas interférer sur les travaux de l'INSEE, n'a pas le droit de le faire, ce serait illégal de le faire, ce qui confère aux chiffres de la dette calculés par l'INSEE, comme aux autres chiffres de comptabilité nationale, une grande rigueur. Voilà, alors il fut un temps où il y avait des espèces de chiffres clés, de chiffres magiques qui étaient édictés. Il ne fallait pas dépasser 90% du PIB pour la dette publique. Ces seuils-là sont un peu remis en cause parce que tout le monde se rend compte qu'il y a des seuils dont on ne sait pas exactement par qui ils ont été calculés et à quel moment, et en tout cas on pense qu'ils sont un peu moins valide. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus concret et important, c'est le remboursement de la dette, c'est la charge de remboursement de la dette. Quand la charge de remboursement de la dette sur le budget de l'État dépasse le budget, par exemple, de l'éducation nationale ou des budgets importants, on est effectivement dans une situation où on voit bien qu'elle n'est pas pérenne à terme, elle ne peut pas être continuée indéfiniment, et donc il faut réduire la dette pour limiter le niveau des remboursements. Voilà, donc il ne faut pas surestimer, il ne faut pas trop déifier ces chiffres, mais il y a un réel problème de dette publique. Et ce problème a d'ailleurs été à l'origine de l'interruption de la reprise en 2011. Hein. On pensait que la reprise était bien partie après la très forte crise de 2008-2009. Et puis en 2011 est apparu des chiffres de dette qui sont apparus comme impossibles à soutenir à terme, ce qui a entraîné une forte politique de réduction des déficits publics et donc des mesures qui étaient contre-cycliques et qui ont interrompu en partie ou qui ont contribué à interrompre la reprise de la croissance. Alors là, on rentre dans des questions techniquement un peu plus complexes. Le taux de chômage est calculé par l'INSEE à partir de méthodes qui sont conformes aux préconisations du Bureau international du travail. C'est pour ça qu'on parle de taux de chômage au sens du BIT, et très surveillé par Eurostat, de façon à ce que les données soient bien comparables entre tous les pays européens. Et le taux de chômage est calculé à partir de l'enquête emploi, qui est une enquête permanente de l'INSEE auprès d'un très grand nombre d'actifs et de personnes en France. Et avec des critères de mesure extrêmement précis, un chômeur, par exemple, ne doit pas avoir travaillé au cours de la semaine avant l'enquête, ne serait-ce qu'une heure, et il doit être à la recherche active d'un emploi. En revanche, on ne lui demande pas obligatoirement d'être inscrit à la NPE, par exemple, Du moment qu'il est à la recherche d'un emploi, il rentre dans les critères. Ce taux est calculé trimestriellement. Et souvent, les médias, notamment, font la confusion avec l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, qui lui est un chiffre mensuel et qui est un chiffre, quelque part, qui est issu d'une procédure administrative et qu'on ne peut pas comparer avec les autres pays européens parce que les procédures administratives de demande d'emploi dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un chiffre qui est utile parce qu'il est mensuel, qui est très regardé parce qu'il est mensuel, mais qui est quand même beaucoup moins pertinent sur le plan économique que le taux de chômage au sens du BIT. J'ajoute que, comme je l'ai dit, un chômeur n'est pas forcément inscrit à Pôle emploi, mais à l'inverse, un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi n'est pas forcément chômeur s'il ne répond pas aux critères. S'il a travaillé quelques heures au cours de la semaine écoulée sur un petit boulot, il n'est pas chômeur au sens du BIT. Le taux de chômage en France est actuellement à 10%. Il est à peu près stable, très proche de la stabilité depuis un certain nombre de trimestres. La quasi-totalité sont disponibles. On calcule un PIB par région. On calcule un taux de chômage par région, on fait des estimations d'emploi par région, on calcule le taux de chômage et on fait des évolutions de production industrielle. Simplement, ils ne sont pas disponibles en même temps parce qu'il faut un peu de travail supplémentaire pour les obtenir et parfois, ils n'ont pas le même niveau de précision, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus d'intervalle de confiance autour des chiffres. Et enfin, et c'est là où ça devient intéressant, il faut quand même se méfier de ces données. Pourquoi ? Se méfier, il faut les prendre, elles sont bien calculées, elles sont exactes, le terme n'est pas exact, mais il faut les prendre avec une certaine prudence. Pourquoi ? Parce que l'économie est de plus en plus le fait de grandes entreprises et notamment de groupes, et même de groupes internationaux. Et donc, la localisation exacte de la valeur produite par un groupe qui a une chaîne de valeur qui peut s'étendre de la Chine jusqu'au Maroc en passant par la France, c'est assez compliqué. On a une production globale, on a de l'investissement, on a de la recherche et développement, et localiser cela dans une région précise, pour un grand groupe, ce n'est pas si simple. Donc comment est-ce qu'on fait ? On proratise un certain nombre de ces valeurs, par exemple, par la masse salariale des employés du groupe présent dans une région donnée. Vous voyez, on fait des proratisations de ce type. C'est une méthode qui est probablement la seule possible. Elle est quand même un petit peu discutable parce que la masse salariale et l'évolution de la masse salariale n'est pas forcément la vraie valeur représentative de l'évolution de la productivité ou de la création de richesses. Deuxième problème sur les économies régionales, la question du commerce extérieur. J'ai dit au sujet français que c'était très important de mesurer les importations et les exportations. Au niveau d'une région, c'est plus compliqué. Si vous prenez la Haute-Normandie, par exemple, elle importe énormément. Pourquoi elle importe ? Elle est donc très déficitaire. Elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Pourquoi ça ? Parce qu'elle importe du pétrole pour ses raffineries. Mais en fait, l'essence, ensuite, va être consommée dans toutes les régions françaises. Donc cette importation, ce solde négatif, n'a strictement aucun sens pour la Haute-Normandie. Deuxième exemple, vous allez avoir dans une région le grand importateur des véhicules d'un grand constructeur automobile, Toyota ou Volkswagen ou autre. Il va importer énormément de voitures, mais ça n'aura pas de sens de calculer un solde commercial entre ses importations et ses exportations. Voilà, donc pour répondre à votre question en une phrase, oui, on a tous ces agrégats au niveau régional, mais parfois leur signification réelle doit être prise avec un peu plus de précaution qu'au niveau national. Alors oui, parce que l'intérêt des travaux régionaux et même infra-régionaux, c'est bien de regarder le tissu productif local. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Et donc on va s'intéresser davantage qu'au niveau national, par exemple, à la présence d'établissements, de grands établissements, ou au contraire de PME. On va s'intéresser beaucoup au caractère de ces PME. Est-ce qu'elles sont possédées par un grand groupe ou par un grand groupe étranger ? Et puis on va regarder aussi le tissu productif en opposant l'urbain, le périurbain ou le rural. On va regarder où, dans quel secteur se développe l'activité. Et enfin, on va regarder la spécialisation des zones d'emploi. Ça, c'est une donnée essentielle, avec l'idée qu'une zone d'emploi qui est très diversifiée va mieux résister aux crises parce que des ennuis dans un secteur seront compensés par des progressions dans l'autre, alors que des zones d'emploi très mono-industrielles sont des zones fragiles parce qu'elles dépendent des aléas du secteur qui est très dominant dans cette zone. Donc la grande différence par rapport au national, mais en fait ce que je dis c'est un truisme évident, c'est que c'est local et que donc on s'intéresse à la situation locale, en particulier de l'appareil productif et d'ailleurs de la main-d'œuvre aussi. On va pouvoir s'intéresser aussi au taux de chômage de façon beaucoup plus, non pas individuelle, mais en regardant de plus près les zones d'emploi qui sont caractérisées par un certain nombre d'actifs ayant telle ou telle caractéristique de formation, par exemple.